Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à vous, chers lecteurs et auditeurs. Alors, aujourd'hui, pour notre émission Lecture par tous, nous allons nous brancher, si je puis dire, sur la comédie du livre Helvétique, comme nous l'avons fait en quelques émissions. Alors, je vais commencer par vous faire découvrir, alors, un auteur, j'en ai déjà parlé. Alors, je ne vais pas vous le faire découvrir, mais vous allez l'entendre lui-même. C'est mieux des auteurs en direct que nous qui parlons des auteurs. Hein, donc, expérience en même temps, nous allons avoir une interview, un entretien téléphonique avec Marc Woltenhauer. Marc Woltenhauer, auteur suisse, auteur de Polar. Hein, alors, je vous rappelle, j'en avais parlé un petit peu avant, qui a publié Le Dragon du Muvran, ça c'était en 2015, et puis en 2017, c'était Qui a tué Heidi ? Et puis, tout récemment, c'est sorti il y a quelques semaines, « L'aigle de sang », hein, trois romans qui sont publiés par les éditions Slatkin et compagnie. Voilà, vous en savez assez. Maintenant, la voix de Marc Woltenhauer va arriver. Bonjour Marc Woltenhauer, merci de nous consacrer quelques minutes pour que nous puissions échanger sur votre travail avant votre venue à la Comédie du Livre à la mi-mai. Alors, vous allez venir à Montpellier, mais vous voyagez beaucoup. Vous êtes allé à Lyon, au Quai du Polar, ça je crois que c'était l'année dernière. Et puis je vois que récemment vous étiez à Bruxelles. À la mi-avril, fin avril, vous êtes à Quiberon, dans la Bretagne, puis mi-mai à Montpellier. Alors, est-ce que c'est important pour vous, auteur suisse francophone, de rencontrer des publics francophones et comment vous y êtes accueilli dans ces lieux-là ?
Bonjour Marc, merci beaucoup. C'est vrai que je sillonne pas mal. La francophonie s'étend, j'avais déjà fait aussi pour à la sortie de mon deuxième livre, cette fois peut-être encore un peu plus, et c'est vrai que c'est important pour moi d'aller à la rencontre des lecteurs aussi en dehors de la Suisse, de faire connaître mes livres, et c'est toujours très agréable d'avoir ces contacts, d'avoir aussi des feedbacks, et surtout d'une année à l'autre, notamment par exemple, c'était la deuxième année de suite où j'allais à Lyon, au Quai du Polar.
Ah, vous y étiez aussi cette année, là, c'était il y a quelques semaines, donc.
Exactement. Et du coup, c'est l'occasion de retrouver des lecteurs qui avaient peut-être acheté le premier livre et qui viennent maintenant prendre le deuxième ou le troisième. Et ça, c'est très positif, justement, d'avoir ces contacts, ces retours, et puis presque un côté retrouvaille aussi, avec des lecteurs déjà rencontrés, puis aussi des nouvelles rencontres.
Puis j'imagine aussi peut-être des rencontres avec d'autres auteurs que vous ne rencontrez qu'à ce moment-là, dans les festivals. Les auteurs se rencontrent beaucoup entre eux aussi.
Oui, bien sûr, effectivement. C'est clair que après avoir, dans un premier temps, pour mon premier livre, beaucoup tourné, je dirais, dans le monde littéraire suisse roman, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres auteurs, et puis finalement on lit des contacts, des amitiés avec des auteurs qu'on retrouve dans ces différentes occasions.
Alors, vous vous considérez, je me disais, comme auteur suisse, auteur de polar suisse, auteur de polar, auteur francophone, auteur tout court, comment vous considérez vous-même ?
Alors, auteur de polar certainement, parce que c'est le genre que j'écris. J'ai toujours aussi été un fan moi-même de littérature policière de manière assez générale. Après, en termes d'origine, c'est clair que mes romans sont pour les deux très, très centrés sur la Suisse, très ancrés d'ailleurs aussi, je dirais, dans la culture suisse. Le troisième, un peu différent puisqu'on se retrouve en Suède. Donc je dirais, s'il fallait mettre une étiquette, auteur auteur de polar suisse et aux origines suédoises.
D'accord. Alors, vous êtes traduit en Suède ou pas ? Ou pas encore ?
Pour le moment, il n'y a aucune traduction. Il y a des pistes, des discussions. Et j'espère qu'un jour, ça se fera.
Ah bah oui, j'imagine que ça vous ferait plaisir. Alors, oui, on parlait de Suisse, de Suède. Alors, vous écrivez, vous situez vos romans dans des lieux qui vous sont très familiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots de ces lieux? Bon, pour la Suisse, c'est le village de Grillon, hein, dans les Alpes vaudoises, et puis l'île de Gotland du côté de la Suède. Alors, pourquoi ces lieux particulièrement? Qu'est-ce qu'ils ont de si précieux pour vous?
À la base, moi-même, j'ai grandi à Versoix, au bord du lac Léman, près de Genève. Mais j'ai appris à connaître Grillon grâce à mon compagnon qui est originaire de ce petit village des Alpes vaudoises.
Oui, qui appartient à une vieille famille grillonnaise, hein, si je ne m'abuse.
Tout à fait. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs là où nous étions rencontrés nous-mêmes la première fois.
Voilà, quand vous aviez publié « Qui a tué Heidi », oui, on s'était rencontrés là-haut.
Exactement. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur pour ce lieu, et puis surtout, en fait, c'est le lieu lui-même qui m'a inspiré pour commencer à écrire. C'était pas du tout pour moi un projet d'écrire des romans, d'écrire des romans policiers. Et en fait, le lieu, Grillon, un petit village à huis clos, tout le monde connaît tout le monde. On peut imaginer qu'il y a des vieilles histoires enfouies, qu'il y a aussi des légendes, un cadre assez majestueux avec ses montagnes. Et j'ai à ce moment-là fait un peu le parallèle entre mes lectures de polar nordique, qui des fois se situent dans un petit village de pêcheurs, chez Camilla Läckberg par exemple, ou dans une ville au sud de la Suède avec Mankell, ou sur une île. Et je me suis dit, mais je peux faire la même chose en Suisse, à Grillon, et en fait de faire en sorte que ce lieu devienne réellement un personnage à part entière dans le livre. Et c'est comme ça que ça a démarré, d'abord par un véritable coup de cœur pour l'endroit, et aussi ensuite cette inspiration qui est venue.
Alors ça, c'était pour les deux premiers livres, hein, qui se passent à Grillon, alors un peu avec des modalités différentes. Et le dernier qui est paru, donc L'Aigle de sang, alors les deux premiers, on peut peut-être rappeler les titres quand même, hein, le dragon du Muvran pour le premier, et puis Qui a tué Heidi pour le second. Là, donc L'Aigle de sang, vous emmenez votre personnage en Suède. Alors, vous pouvez nous dire quelques mots de cette île apparemment que vous connaissez fort bien aussi?
Oui, tout à fait. Ma mère est suédoise. D'ailleurs, le suédois est aussi ma langue maternelle. Et mes grands-parents maternels ont acheté dans les années 60 une ancienne ferme sur cette île de Gotland qui se situe dans la mer Baltique, entre la Suède et les Pays-Baltes. Et du coup, j'y ai passé toutes mes vacances, je dirais, depuis ma plus tendre enfance. C'est un lieu que j'aime beaucoup. Et très vite, déjà, quand j'écrivais Le Dragon du Muvran, je m'étais dit, un jour, j'écrirai un polar qui se passera sur cette île de Gotland. Et c'est pourquoi, en fait, j'avais déterminé que mon inspecteur de police, Andreas, avait aussi des origines suédoises. Et du coup, c'est ce que j'ai pu faire maintenant avec le troisième livre. Gotland est d'ailleurs une terre assez fertile pour les polars, puisqu'il y a aussi d'autres auteurs de polars suédois qui ont écrit déjà de nombreuses intrigues qui se passent sur cette île.
D'accord. Alors, vous nous parliez du personnage central, hein, que vous avez, qui parcourt les trois romans, Andreas Auer. Il y a d'autres personnages qu'on va évoquer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous révéler, si je puis dire, de ce personnage, si on n'a pas lu les romans? Après, on encouragera nos lecteurs, nos auditeurs, à aller lire les romans.
Très volontiers. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'abord eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'inspiration grâce au lieu. Ensuite, j'avais assez rapidement aussi, je dirais, l'intrigue de mon premier polar. Et puis, il fallait créer des personnages. Et là, ça m'a pris un certain temps de réflexion en me disant quels sont les personnages que je peux créer pour porter cette histoire, et puis aussi surtout si je vais continuer à écrire avec les mêmes personnages avec lesquels j'ai envie de cheminer. Parce que finalement, quand on écrit, ces personnages-là font presque partie de notre vie quotidienne. Et je réfléchissais un petit peu au profil, au personnage d'inspecteur qu'on retrouve dans la littérature policière, notamment chez les Nordiques. Et puis, j'avais comme modèle un peu, par exemple, un Wallander ou Harry Hall, qui sont des flics un peu bourrus, qui ont quelques soucis avec l'alcool, qui sont un peu dépressifs, qui ont des problèmes aussi, notamment à rester dans une vie de couple stable, etc. Et du coup, je me suis dit, mais prenons un peu le contre-pied de tout ça, prenons aussi une situation qui est plus proche de ma propre réalité. Et c'est comme ça que j'ai créé le couple Andreas, qui est inspecteur, et Michael, journaliste. Et en plus, je me suis dit, mais plutôt que de partir avec des personnages cabossés par la vie, pourquoi pas partir avec ce couple qui vit une belle histoire et qui sont bien dans leur basket.
Oui, il y a, quand nous étions rencontrés, il y a un an et demi de ça, vous me disiez que vous aviez des retours de lecteurs qui disaient que ça leur plaisait, que ça leur faisait du bien d'avoir des personnages de policiers, enfin d'enquêteurs, qui vont bien, quoi.
Oui, effectivement. Et c'est vrai que c'est un retour que j'ai eu assez régulièrement, parce que justement, ça s'est tranché un tout petit peu avec les modèles habituels.
Alors, il y a d'autres... Alors, vous évoquez Andreas, vous avez commencé à évoquer aussi un peu Michael. Qu'est-ce qu'on peut dire de spécifique à chacun de ces personnages? Là, vous nous avez dit un petit peu comment ils sont nés. Pour les faire connaître à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de spécifique de chacun d'entre eux?
Alors, Andreas, donc, est inspecteur de police à la police judiciaire de Lausanne, dans le canton de Vaud. Pour lui, ce qui est assez spécifique, c'est qu'il a toujours été intéressé par la psychologie. Il a aussi étudié la psychologie. Il a même été faire des cours de profiling aux États-Unis. Et ce qui l'intéresse vraiment, c'est un peu de creuser au plus profond, je dirais, de l'être humain, tenter de comprendre les actions des criminels, de comprendre leur au travers de leur comportement, au travers de leurs actions criminelles, qui ils sont, et tenter justement par là de les percer à jour, on va dire. Donc il y a vraiment ce côté intérêt pour l'humain, intérêt pour le côté psychologique. De l'autre côté, on a Michael, qui est un journaliste très curieux. Il aime beaucoup faire des recherches, et finalement il va s'avérer aussi très utile pour son compagnon Andreas et lui donner des coups de main sur ses enquêtes, justement en y apportant cette touche journalistique, on va dire.
Voilà, et puis alors, il faudrait mentionner aussi Minus, hein, qui a une... c'est pas un personnage essentiel. Alors, qui c'est Minus?
Alors, Minus, c'est leur chien. C'est un Saint-Bernard qui pèse 85 kilos. Il est toujours très, très présent dans les romans. On le retrouve dans les deux premiers. Et puis, d'ailleurs, dans le troisième, il aura même un rôle un peu plus important dans cette histoire.
Oui, il va jouer un rôle clé à un moment.
Avec Andreas.
Alors, on va venir parler un petit peu de l'écriture. Hein. Moi, je vois, en ayant lu les trois, il y a une évolution. Déjà, comme vous situez les choses, le dragon du Muvran, on était à Grillon, et puis avec des histoires, on montait dans l'histoire des personnages, mais c'était, je veux dire, purement grillonnais, entre guillemets, quasiment. Qui a tué Heidi? Vous avez connecté Grillon avec le reste du monde, un petit peu. Hein, avec, ça se passe avec l'Allemagne, avec la Russie, avec les capitaux internationaux qui circulent. Et puis, avec l'Aigle de sang, le dernier, vous délaissez un peu Grillon, vous allez en Suède, et donc vous vous déplacez géographiquement, mais vous plonger aussi plus, me semble-t-il, que dans les autres, dans l'histoire, l'histoire avec un grand H, hein, mm-hmm. Puisqu'on est dans une région, bon, beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus. Moi, je pensais parfois à une auteure comme Sophie Oksanen en lisant votre roman, je ne sais pas si vous connaissez ce roman, Purge, hein, qui raconte cette période entre Estonie, elle est finnoise, elle, hein, entre Estonie et Finlande, et cette période de la Deuxième Guerre mondiale qui a été particulièrement dramatique dans ces régions-là. Alors, jusqu'où vous allez élargir votre cercle ?
C'est une très bonne question. Pour l'instant, je dirais le troisième était un peu à part, différent des deux autres, pour plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est qu'on change complètement de lieu. Donc c'était pour moi aussi l'occasion de redécouvrir cette île de Gotland sous d'autres aspects, parce que même si je la connaissais bien, c'est pas la même démarche d'y aller pour écrire un roman, et du coup j'ai revisiter cette île, redécouvert des lieux différemment que je voulais utiliser dans mon roman. Et surtout, je me suis plongé, comme vous l'avez dit, dans l'histoire de cette île qui m'a passionné, notamment sur deux aspects qu'on va retrouver dans le livre, à savoir la période viking et tout ce qui touche au paganisme nordique. Et de l'autre côté aussi, tout ce qui s'est passé dans cette région et sur Gotland pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, une plongée aussi au cœur de la réalité de cette île de Gotland, au cœur de l'histoire de Gotland, et qui m'a passionné pour construire ce roman. L'autre aspect important, c'est que, contrairement aux autres livres, je travaillais encore à côté. Là, j'ai fait le choix d'être à Gotland pendant plusieurs mois, d'avoir tout mon temps à disposition pour écrire ce livre.
Alors, on parle beaucoup d'écriture, donc trois romans. Moi, il me semble que votre écriture a évolué entre les trois. Il y a quelque chose qui s'est resserré, qui s'est, il y a de plus en plus de maîtrise dans l'écriture. Alors, vous m'aviez confié que sur le deuxième, vous écriviez en parallèle avec une auteure suisse qui ne sera pas la comédie du livre, Marie Javet, qui écrit aussi du roman policier, puis que vous échangiez, vous faisiez des remarques, des observations, vous partagez un peu l'avancée de vos romans respectifs. Alors, en tant qu'écrivain, vous avez l'impression que vous avez progressé comment du côté du style et à quoi vous avez été vigilant voilà, quel regard vous avez sur votre propre écriture, si c'est possible?
Alors, je pense que c'est certain que d'un roman à l'autre, j'ai l'impression d'apprendre et de m'améliorer au niveau de l'écriture. Et je pense que j'ai encore une énorme marge de manœuvre pour la suite, parce que finalement, je me suis rendu compte que l'écriture est vraiment un travail constant. Et finalement, c'est une démarche dans laquelle on entre. Et puis, j'ai moi-même, je dirais, avec le temps, vraiment appris à aimer travailler sur le texte de plus en plus. Au départ, quand j'ai commencé à écrire, c'est plus cette volonté de raconter une histoire qui m'a motivé à entrer dans l'écriture. Alors qu'auparavant, j'avais jamais vraiment écrit autre chose que ce que je faisais dans le cadre de mes études. Du coup, c'était très intuitif, très spontané comme démarche. Et au fil du temps, non seulement j'aime maintenant cette période où je travaille sur le scénario, où j'écris mon texte, mais j'aime prendre du temps ensuite pour vraiment travailler sur le rythme, sur le style, et essayer de perfectionner, je dirais, le texte lui-même. Pour ce faire, j'ai aussi eu, je dirais, de l'aide. Pour le deuxième, effectivement, comme vous l'avez mentionné, j'ai collaboré avec une autre auteure, Marie Javet, où on s'échangeait en fait le texte, on discutait ensemble, on se faisait des remarques. Et c'est aussi en ayant ce type de retour, notamment de Marie ou d'autres lecteurs que j'ai, que j'ai l'impression aussi de pouvoir progresser, parce que parfois on perd un peu le recul sur son propre texte, mais quand quelqu'un rature le texte, corrige, fait des propositions d'amélioration, on voit un petit peu ses propres travers, on voit là où on peut s'améliorer. Et du coup, par exemple, pour ce troisième livre, j'avais aussi plusieurs personnes qui me relisaient. Tout d'abord, mon compagnon qui m'a relu de manière très très attentive, avec qui on a beaucoup discuté sur le texte, mais aussi quelqu'un d'autre qui était une fan de polar et qui porte un regard, j'irais plus précis sur l'intrigue elle-même.
J'imagine qu'il s'agit de Valérie Detwiller, non, par hasard?
Exactement.
Voilà, donc qui est une blogueuse de polar célèbre en Suisse et puis qui est une des animatrices du festival Lausanne-Noir. Si
absolument,
je me
absolument. C'est elle.
Voilà.
Et puis aussi une autre personne qui est très très douée au niveau de la langue française et avec qui on a qui m'aide en fait aussi à mettre le texte en musique, en rythme. Et pour moi, c'est très précieux, je dirais, d'avoir ces autres regards qui m'aident à moi-même aussi à avancer et j'espère progresser.
Bien, alors, on parle de progression, leur progresse aussi. On va peut-être terminer. Prochaine destination d'Andreas, il est rentré de Suède, il a découvert plein de choses sur sa propre histoire. Son compagnon va mieux, parce qu'il allait assez mal. Alors, est-ce que vous avez déjà projeté ses prochaines aventures? Ou est-ce que vous allez l'envoyer? Il va rester à Grillon, vous allez l'envoyer ailleurs? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose?
Alors, en général, je ne révèle rien sur mon prochain livre, par principe. La seule chose que je peux dire, c'est que Andreas, pour l'instant, est toujours engagé à la police vaudoise, donc logiquement, il devrait y avoir un retour dans ces contrées.
D'accord. Donc, à nous de guetter d'ici un an et demi, deux ans, le quatrième volume, alors, c'est cela?
Exactement. Exactement.
Voilà. Donc, bah, vous serez, rappelons-le pour nos auditeurs, donc vous serez à la Comédie du Livre, en compagnie d'autres auteurs suisses, notamment d'un auteur, vous partagez le même éditeur, et puis je crois que vous avez une certaine proximité, vous connaissez bien, avec Nicolas Feuze.
Oui, oui. Tout à fait.
Qui a un peu plus d'ancienneté que vous dans l'écriture de polar, mais qui commence à être publié en France. Voilà.
Absolument.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc Woltenhauer, pour ces quelques minutes que vous avez pu nous consacrer entre deux salons du livre sur le territoire français, si je puis dire. Et puis, à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer à la Comédie du Livre de Montpellier à la mi-mai.
Mais de même, merci beaucoup, Marc. Au plaisir.
Merci, au revoir. Voilà, donc vous avez entendu la voix de Marc Woltenhauer, un auteur suisse, suisso-suédois peut-être, faudrait-il dire, allez, qui sera la prochaine Comédie du Livre en compagnie d'autres auteurs, notamment pour le même éditeur Nicolas Feuze, un autre auteur de polar suisse, et puis vous avez aussi parlé de Joséphine Cardona. Voilà, allez, il y a des auteurs de polar suisse que je vous invite à découvrir à cette prochaine Comédie du Livre. Venez-y pour échanger avec eux. Alors, mais il n'y aura pas que des auteurs de polar, il y aura des auteurs suisses. Alors, certains de langue française, d'autres plutôt du côté du suisse-italien, voire du romanche. On vous a parlé sur ce micro de Arnaud Kameniche, notamment. Et puis, là, je vais vous en parler d'un autre qui, lui, est écrit en allemand. Alors, il n'est qu'à moitié suisse, hein, puisqu'il est né en Normandie. Pour un Suisse, c'est un peu bizarre, hein, mais de père français et de mère allemande, suisse-allemande, hein, et donc il écrit en allemand, peut-être en suisse-allemand, mais en allemand. Alors, c'est Alex Capus, hein, Alex Capus, un écrivain qui est né en 1961, donc je vous disais en Normandie, père français, mère suisse. Alors, il a publié plusieurs livres. Là, je vais vous parler de son avant-dernier que je suis en train de... dont je suis en train de terminer la lecture, qui est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, un titre un petit peu bizarre qui pourrait faire penser peut-être à un roman noir, mais ça n'en est pas un, qui s'appelle « Le faussaire l'espionne et le faiseur de bombes. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est pas un roman d'espionnage, c'est pas un polar, du tout. Non, c'est un roman, on pourrait dire, historique. Historique. Alors, parce que le faussaire, l'espionne, le faiseur de bombes, en fait, ce sont trois personnages bien réels qui ont vraiment existé. Du coup, on est du côté des biographies. Hein, donc, le faussaire, allez. Le faussaire, c'est Émile Gilliron. Alors, qui c'était ? Bah, c'était un Suisse qui était prodigieusement doué pour le dessin. Il y a eu le père et le fils. Et le père a accompagné, au début du XXe siècle, les découvreurs de vestiges archéologiques du côté de la Grèce. Mais à l'époque, la vérité scientifique, il y avait beaucoup de romantisme dans cette archéologie, dans cette première archéologique. Et notamment, le fils, surtout, qui va être un peu moins scrupuleux que son père sur le côté scientifique de l'archéologie, va ainsi fabriquer, avec un découvreur, un des premiers archéologues, Evans, ils vont prétendre avoir découvert le palais du roi Minos en Crète. Et on va arranger un petit peu, les restes ne sont pas très clairs, on va imaginer comment ça pourrait être. Et en fait, on a eu un véritable faussaire d'antiquité qui a fait en même temps découvrir ce monde-là, mais pas de façon très réelle, de façon assez fantasmée. Hein. Et puis, l'espionne, c'est une Loria Doriano. Alors, c'est un nom italien, mais elle n'est pas italienne. Non, elle vient de l'Extrême-Orient. Elle est arrivée en Suisse, notamment, et puis à Marseille. Elle va avoir une vie assez rocambolesque. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle sera chanteuse de cabaret. Elle essaiera d'échapper, surtout, à tout ce qui la force à aller dans une direction particulière. Elle voudra garder son indépendance. Elle terminera par s'engager dans de l'espionnage, en tout cas elle sera accusée d'espionnage, et elle sera fusillée pendant la guerre par les Italiens pour crime d'espionnage. Et puis le faiseur de bombes, c'est un physicien qui a vraiment existé, un physicien suisse qui a travaillé en Allemagne, qui a été dans les mêmes lieux que où était Albert Einstein lorsqu'il a élaboré cette théorie de la relativité. Il avait un très grand ami physicien qui s'appelait Heisenberg. Alors, ça ne vous dit peut-être rien. Vous avez entendu sans doute parler de quelque chose qui est le principe d'incertitude. Bon, c'était les débuts de la physique nucléaire, de la physique quantique, et ainsi de suite. Et puis, ce physicien, il va être amené, Félix Bloch, à quitter l'Allemagne et même à quitter la Suisse et à bénéficier d'une bourse aux États-Unis. Ils veulent aux États-Unis, puis là-bas, en Suisse, il a déjà fait connaissance d'un autre physicien, Robert Oppenheimer. Ça vous dit quelque chose ? Allez, c'est celui qu'on désigne souvent comme l'artisan de la première bombe atomique. Et Félix Bloch va participer à ce projet, le projet Manhattan, qui va aboutir à la première bombe atomique qui tombera sur Hiroshima. Donc, trois personnages réels et en même temps un roman qui nous permet de voyager dans l'Europe des années 30. Et c'est totalement convaincant. On se laisse emporter. On est dans ces années-là, dans ce qui s'y passe. Donc, à travers trois personnages bien réels, mais où l'imagination de l'auteur complète les trous, c'est toute la découverte sur une époque, avec un travail de documentation très très précis. Alex Capus, Le Faussaire, L'Espionne et Le Faiseur de Bombes, c'est publié par Actes Sud, et vous pourrez rencontrer Alex Capus à la prochaine Comédie du Livre. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et espère vous voir autour d'autres livres. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.